Campus Bordeaux.
Point 1, 1. 88.1.
Campus Bordeaux 88.1.
Radio Campus Bordeaux présente les rencontres du Festival Philosophia. Un entretien avec Didier Lebray. Didier Lebray, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve dans le cadre du Festival Philosophia. Vous avez donné une conférence au sujet de la Russie et la Chine. On va en reparler, mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Didier Lebray, j'allais vous donner mon âge, mais c'est pas un interrogatoire, donc je vais vous épargner ce détail. Je suis entré au Quai d'Orsay il y a de cela presque plus de 30 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Et j'ai eu la chance, effectivement, c'est pour ça que j'ai fait cette conférence, d'avoir travaillé pendant assez longtemps sur et autour des questions russes et avant soviétiques. Ça m'a permis de dialoguer avec Pascal Boniface. Et j'ai, à part les questions russes et soviétiques, j'ai beaucoup travaillé sur les questions, ce qu'on appelle aujourd'hui les biens publics, le climat, la santé, etc., quand j'étais à l'ONU. Je me suis aussi un peu spécialisé à une époque sur l'Afrique. Donc j'étais en poste aussi à Dakar. J'étais le responsable de la coopération française. Et ensuite, j'ai eu une période où j'ai principalement été dans la crise, pas moi personnellement, mais dans la gestion de crise. Donc j'ai été ambassadeur pendant presque 4 ans en Haïti, avant, pendant et après le séisme. Et ensuite, dans sa grande bonté, le ministère a considéré que je ferais un excellent directeur du centre de crise. Donc ils m'ont demandé de continuer à Paris, ce que j'avais fait déjà à Port-au-Prince. Et ensuite, j'ai eu 2 années où j'ai fait autre chose auprès du président François Hollande à l'Élysée. J'étais le coordonnateur national du renseignement, et non pas des renseignements, comme disent mes enfants, qui pensent que j'ai renseigné les gens quand ils avaient une question. Après, j'ai fait un petit détour par la politique. J'ai travaillé aussi dans le privé. J'ai fait du conseil. Je travaille dans un fonds d'investissement. Et là, aujourd'hui, je suis revenu au ministère, et où j'ai la délicate mission, avec beaucoup d'autres personnes, d'organiser et de préparer un grand sommet qui se déroulera à Paris les 22 et 23 juin, qui s'appelle Nouveau Pacte Financier Mondial. On va réunir toute la finance internationale, tous les pays qui ont des problèmes de dette, qui ont des problèmes pour financer leur transition énergétique, leur transition écologique, et tous ceux qui aujourd'hui peuvent apporter des solutions. Donc ça va être un temps fort de la diplomatie multilatérale.
Alors, pour en revenir à la diplomatie, justement, et au métier de diplomate, c'est un métier qui suscite pas mal de fantasmes. On ne sait pas exactement de quoi il en retourne. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition et votre regard sur la diplomatie ?
Alors, un diplomate, de manière très très basique, c'est quelqu'un qui représente son pays. Donc, vous êtes accrédité auprès d'autorités étrangères qui vous reconnaissent comme étant le plénipotentiaire de votre pays d'origine. Vous remettez des lettres de créance. Dans le mot de créance, il y a le mot de confiance. Donc vous êtes celui qui a investi de la confiance de votre pays pour le représenter à l'étranger. Donc vous remettez ces lettres au président de la République ou au Premier ministre, selon les types de régime, qui vous reconnaît comme étant le représentant officiel de la France. Et à partir de là, vous êtes à la fois la voix de la France, vous êtes le visage de la France dans le pays où vous êtes. Vous êtes celui vers qui les gens vont se tourner ou les autorités quand ils ont des questions à poser. Donc voilà, ça c'est la première mission. Vous êtes le représentant de votre pays dans un rôle très officiel. Donc vous êtes observé, vous êtes scruté. Aucun de vos faits et gestes ne sont indifférents. Vous n'avez plus de vie privée parce que quand vous êtes ambassadeur, en fait, vous l'êtes tout le temps. Donc vous pouvez... parfois considérer que dans votre vie privée, vous faites ce que vous voulez, mais en réalité, vous restez toujours l'ambassadeur de votre pays. Donc, vous êtes dans l'obligation de le représenter dignement, de ne pas faire des choses qui ne sont pas dans votre mandat, de ne pas prendre de position qui pourrait gêner les autorités de votre pays de résidence, de ne pas prendre des positions qui seraient inconvenantes. Il y a un certain nombre de règles, d'usages qui se tournent autour de questions de bon sens, hein, de respect des règles intérieures du pays où vous êtes accrédité. Bon, on dirait que ça, c'est la partie officielle. Et puis après, il y a une partie qui est peut-être moins visible, qui consiste à comprendre le pays où vous êtes. Donc il y a un grand travail, comme un journaliste, un reporter. Vous essayez de voir le maximum de gens, des autorités bien sûr, mais aussi la société civile, les intellectuels, les artistes, tous les gens qui composent les forces vives de la nation dans laquelle vous êtes, que vous essayez de comprendre. Donc vous essayez de comprendre les ressorts profonds, ce qui compte pour ce pays, quels sont ces... Ça suppose aussi qu'un peu avant, vous y soyez préparé, donc vous connaissiez à minima l'histoire du pays, la langue, c'est bien d'arriver dans un pays, d'en parler la langue, ça aide pour les contacts directs, les gens sont spontanément plus confiants si c'est le cas. Donc ça, c'est une fonction importante qui est de connaître le pays dans lequel vous êtes. Et pourquoi le connaître, c'est pas juste parce que vous êtes curieux, ça il faut l'être, mais c'est parce que cette connaissance vous permet ensuite de proposer des choses à votre gouvernement. De dire, bah, par exemple, là on fait fausse route, c'est pas du tout un pays qui nous déteste, c'est un pays qui ne demanderait qu'une chose, c'est d'avoir de bonnes relations avec nous, mais j'ai identifié ça, 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 et ça comme point de blocage. Donc je recommande à nos autorités de pouvoir réfléchir à la possibilité de lever ces blocages pour éventuellement pouvoir s'engager dans une relation qui serait une relation plus confiante, une relation... Alors moi, quand je suis arrivé en Haïti, par exemple, il y avait deux questions qui agitaient beaucoup les Haïtiens. La première, c'était qu'est-ce que le gouvernement français a à dire de la dette haïtienne, puisque quand le pays a été accédé à l'indépendance en 1804, vous rendez compte, en 1804, un siècle avant quasiment le début de l'entreprise coloniale dans d'autres régions du monde. Pour le punir, hein, on a mis un cordon sanitaire diplomatique et économique, et on a exigé que les Haïtiens remboursent le préjudice subi par la présence coloniale française à l'époque. Donc c'était une somme extraordinaire, enfin très très élevée, et qui a en partie contribué à réduire les chances d'une jeune nation indépendante à pouvoir se développer. C'est un fait. Donc cette question, ça fait partie des questions qu'il fallait aborder, donc question qu'on m'a posée assez rapidement. Voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez interroger votre gouvernement. Comment est-ce qu'on peut arriver à attraper un objet qui est un objet irritant, mais qu'il faut arriver à dépasser. Donc voilà, vous pouvez faire des recommandations, une commission d'historiens, un débat public, etc. Et il y avait une autre question, c'était pourquoi jamais aucun chef d'État et de gouvernement français n'a mis un pied en Haïti. Et l'histoire a tranché, puisque en fait le premier chef d'État et de gouvernement à être venu en France l'a été du fait d'un hasard plus que malheureux, qui était un hasard tragique, qui a été le tremblement de terre en Haïti. Et donc la question ne se posait plus. Il fallait qu'il y ait une présence amie à ce moment-là, au plus haut niveau, pour marquer notre solidarité pour un pays qui partageait notre langue, une partie de notre culture, dont on avait accueilli une partie de sa diaspora, etc. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que sur le fait de se renseigner quand on est ambassadeur quelque part et d'essayer de comprendre la problématique du pays, c'est aussi pour pouvoir avoir des propositions qui permettent de faire bouger les choses. Donc ça, c'est le deuxième volet du métier de diplomate, donc comprendre, proposer. Et puis vous avez un volet qui est plus tourné vers l'action, qui est aussi de défendre vos intérêts, de défendre la communauté française qui est présente, les biens qui pourraient être des biens français, la communauté économique, etc. Et de manière générale, de prêter assistance à ceux qui en ont besoin si d'aventure devait se produire quelque chose. Donc, c'est-à-dire un peu ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la gestion de crise ou l'action d'urgence. Voilà, en gros, c'est un peu toutes les facettes du métier, représenter, s'informer, proposer et agir en cas de besoin. Et dans ce que vous proposez, il y a aussi ce qui résulte du travail d'écoute que vous conduisez avec les autorités de votre pays de résidence. Mais pas qu'avec les autorités. Vous pourrez, par exemple, admettons que vous êtes dans un pays où un dirigeant voudrait se représenter pour la quatrième fois ou cinquième fois même si c'est pas prévu par la Constitution, ou quitte à bidouiller la Constitution. Bon, vous pouvez à la fois écouter les arguments du chef d'État qui vous les présente, les transmettre à votre gouvernement en disant voilà, de son point de vue, même si la Constitution ne le permet pas, ça se justifie pour telle ou telle raison. Donc vous faites votre travail, vous donnez le point de vue de l'autorité du pays, mais rien ne vous empêche aussi de dire mais du point de vue qui est le mien, et après avoir écouté l'ensemble des parties prenantes de ce pays, la société civile, la jeunesse, les intellectuels, etc., il me semble que si nous soutenions cette initiative qui consisterait par exemple à réformer de manière un peu violente la Constitution, mettrait en danger la stabilité de ce pays, parce qu'il y a une grande partie de la population qui aujourd'hui refuse ça. Donc je recommande à mes autorités, c'est ce que vous écririez dans un télégramme, soit, ce qui est souvent ce que font les diplomates qui est un peu lâche, de ne rien dire, de façon à laisser le pays gérer ses problèmes politiques internes, soit, par exemple, d'envoyer un message discret dont je peux me faire le porteur en tant qu'ambassadeur, au nom de mes autorités, lui disant, mais écoutez, notre vision et notre conseil d'amis, comme partenaire, vous en faites ce que vous voulez, c'est que vous prenez plus de risques en faisant ça que éventuellement d'organiser les choses autrement.
Bah c'est passionnant déjà. J'avais une question un peu plus précise sur la conférence que vous avez partagée avec Pascal Boniface. Donc vous abordiez évidemment les questions de Russie-Ukraine, de la Chine aussi. Je voulais vous poser la question de tous ces rôles, toutes ces casquettes que vous avez en tant que diplomate. Comment on fait, quel rôle joue la diplomatie dans des zones un peu de flou qu'on a en ce moment entre la France par exemple et la Russie, où on n'est pas officiellement co-belligérant, mais dans les faits on se pose les questions, c'est pas vraiment si on doit, rentrer en dialogue avec Poutine ou pas. Et là dans ce cas-là, avec vraiment cette zone de flou, quel est le rôle de la diplomatie ?
Là c'est extrêmement frustrant d'être ambassadeur de France à Moscou aujourd'hui, parce que toutes les écoutilles sont fermées. À partir du moment où le président de la République lui-même a essayé pendant des mois d'établir ce dialogue, d'amener Vladimir Poutine à prendre conscience qu'il faisait fausse route, qu'il prenait acte des engagements que prenait de son côté Poutine en disant « mais non, ce sont juste des manœuvres militaires, il est hors de question qu'on attaque », et finalement, il est passé à l'acte. C'est compliqué quand vous êtes ambassadeur, une fois que vos plus hautes autorités ont marqué une vraie disponibilité à dialoguer, visiblement ça n'a servi à rien. Vous-même ensuite, à votre niveau, vous n'avez plus grand-chose à faire. Les portes du dialogue se sont fermées. En revanche, rien n'empêche, et c'est pour ça qu'un bon ambassadeur, c'est quelqu'un qui a un grand réseau, qui est capable ensuite de trouver d'autres relais, peut continuer à dialoguer avec des gens qui seraient disponibles pour dialoguer. Des centres de recherche, des journalistes, des intellectuels, peut-être même certaines autorités territoriales, locales, bref, essayer de trouver des chemins de passage pour imaginer l'après. Donc ça va être le travail ensuite patient, de reconstruire le fil du dialogue, d'embarquer à nouveau des gens dans un processus d'écoute, de respect, de reconstruction d'une relation qui sera très très endommagée. Avec l'ensemble de ceux qui reprendront bon an mal an un moment ce chemin. Mais là aujourd'hui ça doit être très très frustrant. Je pense que vous êtes ambassadeur de France à Moscou, vous êtes reçu à mon avis pas par grand monde au niveau politique, voire même par personne, et on est dans des relations qui sont là extrêmement hostiles, puisque Poutine considère que même si on l'est peut-être à un niveau moindre que les Américains ou les Britanniques, considère quand même que on a pris un train de mesures de sanctions sans précédent vis-à-vis de la Russie, et maintenant vis-à-vis de Poutine lui-même, puisque on a dit très clairement qu'on a prouvé l'idée que le président Poutine puisse être justiciable devant la Cour pénale internationale, ce qui est quand même un acte extrêmement clair et hostile pour une autorité politique, et qu'on a même été plus loin puisqu'on a reconnu la légitimité de la demande des Ukrainiens de pouvoir créer un tribunal qui n'existe pas à ce jour, qui pourrait juger du crime d'agression. Le crime d'agression, c'est le crime qui consiste à entrer en guerre sans avoir été agressé contre un pays. Ça s'appelle un crime d'agression. Vous avez un certain nombre de crimes qui sont couverts par le champ de la Cour pénale internationale, le fameux traité de Rome. C'est le crime de génocide, le crime contre l'humanité, les crimes de guerre. Donc qu'est-ce que c'est tous ces crimes ? C'est des crimes qui, par rapport à la conduite ordinaire des conflits, vont au-delà, transgressent les règles mêmes de la façon de conduire une guerre. Quand vous faites la guerre, on peut imaginer que les armées se fassent la guerre, mais il est interdit par les conventions de Genève de cibler des civils. Quand vous détruisez des hôpitaux, des écoles, des jardins d'enfants, des immeubles où il n'y a que des civils, ça s'appelle un crime de guerre. C'est interdit par les conventions de Genève. Quand vous décidez de déporter des milliers d'enfants ukrainiens pour les endoctriner et les priver de leurs parents, ça peut être assimilé à un crime contre l'humanité. Ça veut dire que vous niez la possibilité d'un pays à assurer sa propre descendance et que vous lui interdisez le droit même d'exister. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Et quand vous dites publiquement que ce pays ne devrait pas exister et qu'au fond l'Ukraine n'existe pas, qu'elle n'a pas d'existence parce qu'elle est russe et que vous allez tout faire pour les convaincre de la justesse de vos arguments, ça peut aller jusqu'au crime de génocide. Donc ce sont des crimes suprêmes, ce sont des crimes qui ont été, comment dire, instruits et jugés après-guerre au moment du procès de Nuremberg. Et vous avez toute une série d'instruments juridiques aujourd'hui qui normalement devraient interdire les États de se livrer à ce genre de choses. Après, vous avez le droit et vous avez l'aridité malheureusement.
Tout à l'heure, vous avez parlé du rôle de diplomate en tant que conseiller qui sonde un peu le terrain et qui rapporte ce qu'il voit. Est-ce que le diplomate, il est écouté par le politique ?
Par le politique, j'espère. Sinon, on servirait un peu à rien. Après, le politique peut avoir plusieurs sources. Il lit la presse, comme tout le monde. Il s'informe auprès de gens à qui il parle. Vous avez des visiteurs du soir, vous avez... Les sources d'information, elles sont multiples. Vous savez, l'époque où le diplomate partait avec sa canne et son chapeau, ses lettres de créance, mettait 3 mois ou 6 mois ou 1 an pour arriver dans le pays où il n'y avait pas ni la poste, ni Internet, ni les avions et où on se déplaçait en calèche. C'est sûr que ce que pouvait dire l'ambassadeur, qui était les seules oreilles, les seuls yeux et la seule voix du pays dans lequel on se trouvait, même si sa dépêche mettait 3 mois pour arriver, elle était lue et on se disait, bon, il est pas mal placé pour ça, puisque de toute façon, on n'en savait rien. Aujourd'hui, vous avez l'avion, vous avez le téléphone, vous avez Internet, vous avez BFM. On est sursaturé d'informations planétaires H24. Est-ce que la voix de l'ambassadeur compte ? Normalement, on devrait y prêter un peu d'attention parce qu'il vit dans le pays. Il s'est imprégné, s'il fait bien son métier, de la culture de ce pays. Il a multiplié les interlocuteurs. Il est allé le plus en profondeur que l'on peut aller en essayant vraiment de comprendre la complexité des choses. Donc quand un ambassadeur dit « Écoutez ça, c'est intéressant, on peut le tester, on peut le faire, mais un, il faut le faire un peu différemment et peut-être qu'il faudrait le décaler légèrement dans le temps parce que là, aujourd'hui, ça risque d'être contre-productif. » Voilà, vous émettez une opinion et ensuite le politique tranche. Mais si par exemple, prenons un cas d'école et qu'à Dieu ne plaise que ça se produise, demain Marine Le Pen est au pouvoir. Alors d'abord, on se posera la question de savoir qu'est-ce que feront tous ceux qui représentent au plus haut niveau l'État, les préfets, les ambassadeurs, les très hauts fonctionnaires, les directeurs généraux. Est-ce qu'ils considéreront que ce qui sort des urnes est forcément légitime et donc on sert n'importe quel régime au motif que le peuple en a décidé ainsi, ça se défend, c'est un point de vue qui se défend. Vous pouvez aussi faire jouer une espèce de clause de conscience, dire moi je peux pas parce que je suis d'accord en rien avec ce que défendent ces gens et donc je me mets en retrait, donc je ne servirai pas, je vais faire autre chose. Bon, encore faut-il avoir les moyens de faire autre chose, mais bon, votre conscience peut vous forcer à prendre un risque. Mais admettons que ce ne soit pas votre option. Vous décidiez de servir ce régime. Admettons que vous soyez dans un pays qui pourrait être un pays directement, qui subirait directement les conséquences d'une politique, admettons, d'expulsion massive. Qu'est-ce que vous allez dire à un gouvernement pareil? Vous allez lui dire, mais écoutez, c'est incompréhensible, personne ne nous pardonnera jamais d'expulser massivement des gens qui avaient commencé à faire leur vie chez nous, qui ont leur famille, leurs enfants éduqués, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez expliquer quelque chose qui vous paraît devoir refléter la vérité de ce que vous constatez là où vous êtes, tout en sachant que ce parti politique ou cette personne a été élu sur un programme qui disait très clairement ce qu'ils allaient faire. Là, on touche les limites de l'exercice. Vous pouvez toujours le dire, mais si les gens ont été élus sur un autre programme et que ce programme vous paraît contraire à la fois à l'image que vous faites de votre pays et aux intérêts des relations internationales et de la relation même bilatérale à laquelle vous êtes censé contribuer, ça rend l'équation singulièrement difficile.
Je vais te laisser la parole, Ludovic, juste j'embraye parce que ma question, elle n'était pas innocente sur si le diplomate est écouté par le politique. Parce qu'en ce moment, le corps diplomatique subit une crise. Il y a une réforme qui est passée. Il y a un décret qui est passé, c'était en avril 2022, si je ne me trompe pas. Et cette réforme, elle implique que les diplomates seront choisis parmi les hauts fonctionnaires venant de toutes les administrations, aussi du secteur privé, alors qu'en fait, avant, c'était un recrutement par concours. Et c'est une sorte de suppression, en fait, du corps diplomatique tel qu'il a existé. Et cette méthode, cette réforme, elle est très décriée dans le corps diplomatique. Vous, quel est votre point de vue sur cette réforme? De ce que j'ai entendu, de ce que les diplomates ont dit, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment compris leur rôle véritable, alors qu'ils nous expliquent qu'en fait, ils sont essentiels.
Alors, il y aura toujours des critères, je l'espère, aussi objectifs que possible, pour permettre de savoir qui peut accéder à ces emplois. Je pense que la très grande majorité des emplois seront pourvus par voie de concours, que ce soit un concours qui s'appelle plus l'ENA aujourd'hui mais l'ISPP, je crois que c'est ça, et que tous les gens qui entrent dans cette nouvelle école aient un statut qui est un statut d'administrateur d'État, donc ils peuvent être un jour à Bercy, un jour aux affaires sociales, un jour à la Cour des comptes, un jour au Quai d'Orsay, puissent faire des carrières diversifiées et une fois encore servir un jour leur pays comme diplomate. C'est pas choquant en soi. C'est pas choquant en soi. Ils auront passé des concours, c'est sélectif, ils auront le niveau. Voilà. La deuxième question que vous posez, c'est est-ce qu'il va y avoir une espèce de tour extérieur discrétionnaire qui permettrait, sur le fait du prince, de nommer qui on veut? Je pense que cette possibilité, elle est réduite. Alors, je sais pas dans le décret, je ne l'ai pas en tête dans le détail, mais je pense qu'il y a une proportion qui est prévue, mais qui peut pas être à aucun moment majoritaire. Il y aura peut-être 5-10% des hauts fonctionnaires, des diplomates, des préfets qui pourront venir de la société civile. Mais c'est déjà le cas. Moi, j'ai eu comme collègue Jean-Christophe Ruffin, qui n'est pas un diplomate, qui est un écrivain académicien, qui a travaillé pendant 4 ans au Sénégal comme ambassadeur, qui n'a pas démérité, qui a été un très bon diplomate. On a eu plusieurs personnalités de la société civile qui ont représenté leur pays de manière tout à fait digne, convenable, intelligente, sans être passé par ni l'ENA, ni le concours de la diplomatie. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça devienne la majorité, parce que si demain le Front National arrive au pouvoir et que la lecture qu'ils font de ce décret, c'est de permettre de caser tous les petits copains à tous les postes clés de l'État, là, on n'est plus dans un état de droit. On est dans un État qui devient un État tentaculaire et qui va placer de manière discrétionnaire des gens qui n'ont pas la légitimité pour ça. On n'en est pas du tout là. Mais je pense que cette réforme a interrogé notamment nos jeunes agents, mais pas que. Il y a eu aussi une pétition de diplomates chevronnés. Alors je connais bien la question parce que j'ai participé aux États généraux de la diplomatie. J'étais même le référent déontologue de ce processus. Donc c'est vous dire si je l'ai suivi de très près. La crainte d'une grande partie des diplomates, c'est est-ce que ça veut dire que si n'importe qui peut faire notre métier, quelqu'un qui vient des affaires sociales ou de la culture ou de la préfectorale, ça veut dire qu'on n'a pas de spécificité, que notre métier n'existe pas et que le métier de diplomate n'est pas un vrai métier. Non, la réponse, ce n'est pas ça. C'est un vrai métier. Et je pense que dans la, les faits, vous verrez qu'il y aura une très grande majorité de gens qui vont faire leur carrière dans la diplomatie. Mais que de temps en temps, on leur demandera d'aller dans le privé, d'aller dans un autre ministère, de voir d'autres choses, d'autres horizons. Je ne pense pas, honnêtement, et en conscience, je ne pense pas que ce soit une catastrophe absolue. Je pense que d'aller voir ailleurs, ça vous enrichit toujours. Si en revanche, ce que je vous dis ne se réalise pas, et si finalement cette réforme permet de tout chambouler et de faire qu'il n'y aura plus de professionnels de la diplomatie et que n'importe qui pourrait y avoir accès selon le fait du, à partir du fait du prince, là, ça aurait été une mauvaise réforme. Mais pour l'instant, on ne peut pas imaginer que ça aille dans ce sens.
Donc oui, mais alors je vais revenir sur un élément de votre longue expérience, notamment sur la période en Haïti, vu que vous aviez été, je me bêtise, après le séisme, avant le séisme, avant, pendant et après. Et justement, est-ce que vous pensez qu'il y a eu des leçons qui ont été prises en Europe, en France, ou en tout cas dans les pays qu'on dit développés, par rapport à la manière dont la crise a été gérée après le séisme, puisqu'il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu beaucoup d'éléments, beaucoup de malversations qui ont été dénoncées, etc. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si demain une telle crise, alors il y a eu d'autres cas, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui on a, enfin, il y a une modification profonde dans la manière dont on gère ce genre de crise?
Pour répondre très directement, je pense qu'il y a au moins trois enseignements qu'on a tirés de cette crise, ce qui était une crise un peu hors norme, hein. 250 000 morts, plus de 100 000 blessés, enfin, c'était une catastrophe à une échelle incommensurable. Je pense que ce qu'on a tiré comme premier enseignement, c'est que la meilleure façon de gérer les crises, c'est de les prévenir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors là, c'est une catastrophe naturelle, donc on n'aurait pas pu la prévenir. On aurait pu en réduire l'impact. Mais partons de crises de type politique, ou même parfois de certaines crises naturelles. Je vous expliquerai ce que j'ai en tête. Investir dans la prévention, faire en sorte que on donne les moyens aux pays qui traversent des crises pour organiser le dialogue, quand c'est un dialogue qui est interrompu, pour éviter une crise majeure qui terminerait en conflit ouvert, voire en guerre civile. C'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Donc la vraie gestion de crise, elle devrait se faire avant que la crise ne survienne, pour s'épargner ensuite des situations qui sont souvent inextricables. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que quand une crise survient dans un pays qui est un pays structurellement fragile, c'est-à-dire dont les structures étatiques sont déficientes, qui sort d'un long cycle de péripéties politiques, il ne faut pas croire qu'on va reconstruire le pays malgré ou sans ou en contournant les autorités, aussi fragiles soient-elles. Ce qu'on fera en faisant ça, c'est qu'on va achever de délégitimer les autorités qui auront regardé les trains passer, qui n'auront pas été ceux qui auront été à l'origine de la gestion de crise. Ils en auront été dépossédés et ils seront délégitimés aux yeux de leur population. Donc il ne faut pas faire ça, parce qu'une fois que les humanitaires, les bailleurs de fonds seront partis après la crise, seul le gouvernement restera. Et si le gouvernement a été impuissant et on s'est dit, bon, gérons d'abord les urgences et on verra. Non, en fait, c'est une urgence aussi de donner les moyens, ne serait-ce que des choses basiques. Moi, quand j'étais en Haïti, je pestais matin, midi et soir pour qu'on donne des locaux au gouvernement là où l'aide humanitaire arrivait, où on faisait des briefings, où il y avait tout le journaliste. De toute façon, ce que les gens voient que le gouvernement est au Sabine, c'était pas... qu'on ne donne pas l'impression que tout d'un coup, les puissances étrangères géraient à elles toutes seules l'entièreté de la réponse à la crise. C'est très, très néfaste. Et le troisième enseignement que j'en retire, c'est que, et ça revient un peu à mon premier point, c'est qu'on ne peut pas continuer éternellement à être dans une logique d'intervention humanitaire nord-sud. Il faut donner les moyens avant les crises aux pays de pouvoir se préparer aux crises. C'est beaucoup plus efficace. Donc, et ça, les humanitaires l'ont compris. Donc, dans l'action humanitaire aujourd'hui, il y a aussi cette idée de transférer progressivement le savoir-faire, les capacités, peut-être même les financements, de façon à ce que les gestionnaires de la crise soient au plus près du terrain. Et qu'après le pic de la crise, eux restent. Quand vous avez la Croix-Rouge haïtienne, elle reste après la crise. MSF, une fois sera fini, ils repartiront. Donc c'est important d'avoir cette approche au plus près du terrain, localement. Et surtout, mais il y a quelque chose contre lequel malheureusement on ne peut pas faire grand-chose aujourd'hui, c'est que l'humanitaire, ça fait recette. Quand il y a une crise, les gens donnent, parce que c'est le cœur qui parle. Quand vous dites aux gens dans un pays qui est porté à bout de bras par la communauté des bailleurs de fonds depuis 10, 15, 20 ans, les gens se disent, bon, ok, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Et donc, on arrête. Et c'est à chaque fois qu'on arrête que surviennent. Donc, il faut arriver aussi à diffuser ce message qui est qu'il faut de la ténacité dans l'action au développement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, parfois... Investir dans la prévention pour la lutte contre les criquets, c'est pas très glamour à Madagascar, mais c'est mieux que d'attendre que les criquets ravagent l'entièreté des récoltes, qu'il y ait des famines et qu'ensuite on doive mobiliser de l'argent humanitaire qu'on trouvera parce qu'on y arrive toujours, mais c'est mieux. Un euro parfois investi dans le développement, ça vaut ensuite 10 euros d'intervention humanitaire, donc c'est un bon placement.
Et pour toujours sur la question haïtienne, est-ce que vous pensez que ça est-ce que vous pensez que ça a changé notre rapport au pays en voie de développement? Est-ce que vous pensez que justement la manière dont ça a été géré fait que demain, si une situation aussi horrible apparaît dans un autre pays en voie de développement, un pays du Sud, la manière dont on agira sera différente?
J'espère qu'on aura tiré quelques enseignements. Après, chaque crise est un peu inédite et nécessite des réponses qui sont sans doute adaptées, différentes. Mais oui, j'espère qu'on aura tiré cet enseignement que à la fois c'est important de répondre, c'est à la fois d'être au rendez-vous, de donner les moyens, mais il faut pas le faire n'importe comment. Et il ne faut pas négliger le fait que il puisse y avoir parfois des effets de bord qui sont très déstabilisateurs. Et donc oui, dans ce niveau-là, je pense que ça a été fait. Moi, quand j'étais là-bas, il y a eu plusieurs missions. Il y a eu une mission des Nations Unies très vite, une mission française, il y a eu la Cour des comptes, j'ai eu toutes sortes d'inspections qui sont venues pour essayer de comprendre ce qui avait été fait, si ça avait été bien fait ou pas, s'il y avait des enseignements à tirer. Et c'est intéressant que vous posiez cette question parce que c'est pas tellement dans la culture française, ça le devient de plus en plus, cette idée qu'on peut ne pas réussir au premier coup. Ce qui compte, c'est de tenir justement des enseignements de ce qu'on a fait et d'améliorer les choses. Donc moi j'aime bien cette culture de l'itération, cette culture qui consiste à... Elle a un gros avantage, cette culture de une forme de pragmatisme et de modestie dans l'action, c'est que on passe d'une logique où on cherche toujours des coupables à une logique où on cherche d'améliorer les choses ensemble, ce qui est mieux.
Ça rejoint un peu les questions de Ludovic, à travers les questions posées sur les enseignements tirés des expériences de crise. Et je remarque depuis le début de l'interview, vous parlez de ce statut de diplomate, d'ambassadeur, où c'est quelqu'un qui emmagasine énormément d'expériences, de connaissances à la fois politiques, sociologiques, historiques, de contexte. Enfin, c'est impressionnant. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a une sorte, si je puis dire, de jurisprudence diplomatique, dans le sens où on voit qu'un diplomate, je trouve dommage de me dire que quelqu'un qui va rester 20 ans dans un pays, qui emmagasine autant d'expérience, peut-être ça va passer à quelqu'un d'autre, et comment se fait le relais de la transmission des connaissances et de l'expérience dans la diplomatie?
C'est une super, super bonne question, et ça a même été une des questions abordées pendant les états généraux de la diplomatie, parce qu'en fait, il y a une vraie déperdition, comme c'est un ministère où les gens bougent toujours, on passe 3 ans, 4 ans dans un poste, on passe ailleurs, etc. Il y a une vraie question de savoir comment est-ce qu'on conserve la mémoire de ce qu'il fait. Par exemple, quand vous accueillez en France ou vous avez un réseau de gens, des alumni, de gens que vous avez formés, etc. Comment est-ce que d'ambassadeur en ambassadeur, on maintient ce contact avec des gens qui avaient 20 ans, il y a 20 ans, qui en ont 40 aujourd'hui, qui sont dans des... positions qui peuvent être intéressantes pour votre pays, pour continuer à dialoguer, pour... Comment est-ce qu'on fait pour arriver à capitaliser ? C'est-à-dire, quand vous invitez, je ne sais pas, des gens un 14 juillet, être sûr que vous n'oubliez pas des gens qui ont un lien très puissant avec la France, mais simplement au fil des années, parce que l'ambassadeur a changé, on les a passés par perte et profit. Donc il y a un besoin de professionnaliser les outils pour être sûr. Après, vous faites des choix, vous n'êtes pas obligé de conserver intégralement. Mais c'est important, si vous faites des choix, de le savoir que vous le faites, voilà, en connaissance de cause. Et on a constaté qu'il y avait très peu de transmission entre ambassadeurs, pour une raison qui est simple, c'est que jamais deux ambassadeurs ne peuvent être au même endroit au même moment. Quand vous êtes ambassadeur, vous l'êtes pleinement, vous partez, un autre arrive. Donc on peut se voir éventuellement à Paris avant, moi c'est ce que j'ai fait dans certains cas, mais c'est pas toujours le... Donc ça c'est quelque chose qu'on essaie de professionnaliser, parce que c'est... Par exemple, on va dire un truc tout bête, quand j'ai pris mes fonctions d'ambassadeur, j'ai demandé à tous les anciens si je pouvais aller les voir. Donc voilà, j'ai pris ma canne et mon chapeau, comme on dit. Je leur ai demandé de me raconter ce qu'ils avaient vécu, comment ils voyaient Haïti, qu'est-ce qu'ils avaient essayé de faire, qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et c'est hyper précieux. Parce que ça vous donne aussi la profondeur de champ, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, là où ils se sont cassés les dents, quels étaient leurs rêves qui n'ont pas pu aboutir, etc. Donc vous partez avec un peu de background, comme on dit. Et mais c'est, voilà, c'est quelque chose qui fait défaut. Alors, est-ce que vous avez des diplomaties où les gens passent toute leur vie dans 3 ou 4 pays d'une ère géographique, linguistique, culturelle homogène? Les Russes font ça. Les Russes, leurs diplomates vont, par exemple, faire toute leur carrière dans les aires francophones. Donc, à la fin, ils connaissent très, très bien et la langue, et nous, et les sujets, et même les relations qui peuvent exister entre la France et l'Afrique, entre la France et la Belgique. La France et... c'est une force. La faiblesse, c'est que quand vous voyagez beaucoup, quand vous avez une vision très large du monde, des thématiques, quand vous avez été sur les questions de sécurité, sur les questions d'humanitaire, sur les questions de coopération, sur les biens publics globaux, sur la finance, enfin bref, quand vous avez touché un peu à tout, mais de manière quand même assez approfondie, en fait, quand vous arrivez dans des nouvelles fonctions, vous amenez avec vous tout ce regard aussi, qui permet parfois de pouvoir proposer un chemin, inventer quelque chose qui pourrait être utile. Quand vous restez très longtemps dans un pays, moi j'en ai parlé avec des collègues, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai un collègue avec qui j'ai bossé avec lui dans le privé, qui est resté 10 ans à Riyad, en Arabie Saoudite. Bon, 10 ans c'est long. Les autorités du pays en question ne souhaitaient pas qu'il parte, parce qu'il était tellement apprécié que voilà, ils avaient envie de le garder. On leur a fait plaisir, on l'a laissé. Le risque, c'est que même si ça s'inscrit dans une logique de demande, donc on le fait parce qu'on veut maintenir de bonnes relations avec le pays, etc. Le risque, c'est qu'au bout d'un moment, vous pouvez passer à côté d'évolutions profondes que vous ne voyez pas parce que vous n'avez pas envie de les voir, parce que vous êtes totalement dans une logique unidimensionnelle. Et vous risquez du coup de ne pas être de si bons conseils que ça pour la suite. Donc ça se tient. Après, moi je pense qu'il y a une durée moyenne incompressible. Hein, 3-4 ans, c'est vraiment le minimum pour pouvoir servir utilement votre pays. Il ne faut pas trop papillonner. Mais effectivement, vous avez raison. La question de savoir comment est-ce qu'on maintient la mémoire des choses, elle, c'est une vraie... Très bonne question.
On arrive bientôt au terme de cette interview. On rappelle qu'on vous rencontre ici dans le cadre du festival Philosophia. Et justement, est-ce qu'on retrouve de la philosophie dans la diplomatie ?
Oui, parce que je ne vais pas parler pour les philosophes, mais si philosopher, ça consiste à poser les bonnes questions, quand vous êtes diplomate, vous devez aussi poser les bonnes questions. Vous n'avez pas forcément les réponses. Vous devez aussi être capable de déplier, comme disent les philosophes, la réalité, les perceptions, rendre intelligible la complexité des choses. Et ça, c'est aussi une démarche qui est assez philosophique. Et ce qui est peut-être le plus philosophique dans la démarche des diplomates, c'est la capacité aussi à ne pas céder aux facilités. C'est-à-dire qu'au moment où tout le monde va répéter la même chose, posez-vous la question de savoir pourquoi tout le monde répète la même chose. Est-ce qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui mériterait qu'on le creuse? Et moi, j'ai jamais dissocié l'intelligence d'une forme d'empathie. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment faire l'effort de comprendre, il faut faire l'effort de vous mettre à la place d'eux. Et je ne sais pas si c'est philosophique, mais je pense que dans la démarche qui consiste à la fois à accepter la complexité, à l'accueillir, et d'être aussi dans une logique d'empathie pour pouvoir, au-delà des raisonnements, comprendre le travail des affects dans ce qui produit aussi des idées, voire des conflits, c'est important. Donc peut-être, oui, il y a des liens entre la philosophie et la diplomatie.
Mais merci beaucoup, Didier Lebré.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Campus Bordeaux. 88.1.
Campus Bordeaux 88.1.